Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de My Poésie, une jeune marque de chemises fabriquée en Sologne. Et derrière My Poésie se cache une citation de Shakespeare. La poésie est cette musique que tout le monde porte en soi. Et pourquoi ne pourrait-on pas aussi porter la poésie sur soi? C'est ce que Justine propose. Justine, la créatrice de My Poésie. Elle vous offre des chemises aux formes épurées que l'on porte dans toutes les circonstances. Des chemises 100% made in France, dans le respect de notre savoir-faire, au sein d'un petit atelier à taille humaine. Si vous suivez Chiffon, vous avez écouté Justine, qui nous avait parlé de sa marque, les Sologniotes, il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est partie vers une nouvelle aventure avec My Poésie. Et à cette occasion, elle vous offre moins 30% sur votre commande avec le code Chiffon. Alors, je vous invite à venir sur le site www.mypoésie.fr pour découvrir l'univers rempli de poésie de Justine. Sa définition d'élégance est très simple. Elle passe par la chemise. Allez, place à notre invité du jour.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talon ou basket? Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. Mon Dieu, c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Le mois dernier, Chiffon est parti au Brésil en compagnie de Sébastien Kopp, le cofondateur de Veja, pour découvrir et décrypter le fonctionnement de cette marque française pas comme les autres. Veja fabrique des baskets en respectant les codes du commerce équitable. Lors de ce périple, j'ai découvert une entreprise qui place l'humain en priorité, et ce, à toutes les étapes de fabrication, que ce soit dans les champs de coton ou dans les usines. Sébastien Kopp est à la hauteur de cette image. Humain, discret et passionné. Ses devises, l'action, la transparence, l'insertion, pas de publicité et une consommation raisonnable. Bonjour Sébastien.
Bonjour Valérie.
Est-ce que cette petite introduction te convient et ce mini-portrait?
Écoute, c'est toi qui l'as fait. On a passé une semaine ensemble au Brésil à voyager longtemps, donc si c'est la tienne, ça me va.
Depuis 2004, Veja, c'est 1,7 million de paires de tennis vendues, 180 tonnes de coton bio acheté, 130 tonnes de caoutchouc, 70 personnes dans l'équipe, 200 personnes salariées en insertion. Peux-tu nous raconter la naissance de Veja? Parce qu'au départ, c'est une aventure un peu dingue quand même.
Oui, au départ, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une marque, c'est deux copains qui se disent...
Donc Guilin.
Oui, Guilin et moi, donc Guilin, mon meilleur ami. On travaille à New York, Guilin travaille à New York, moi je travaille à Washington, et on se dit qu'on n'a pas envie de suivre une vie un peu corporate, une vie où on bosse dans les banques d'affaires. On a 23 ans, on a une carrière toute tracée devant nous, et on se dit qu'on ne veut pas de ça. On veut autre chose. On entend beaucoup parler à l'époque, c'est en 2002-2003, on entend beaucoup parler de développement durable, c'est-à-dire... justice économique, équilibre social et impact positif environnemental. Les entreprises commencent à en parler et on se dit, tiens, ça nous intéresse beaucoup plus que des algorithmes et de l'argent pour l'argent. Et du coup, on va voir quelques grosses boîtes françaises en leur disant, voilà, on a fait des bonnes études, on parle plusieurs langues, et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aller voir sur le terrain ce dont vous parlez si bien pendant les conférences. On aimerait bien aller voir sur le terrain ce que vous faites. ils nous trouvent marrants, ils trouvent que c'est pas cher parce qu'on leur demande juste de nous de rembourser les frais de voyage, d'avion et de logement. Alors quand on leur dit qu'on a besoin de 10 euros par nuit pour le logement, ça les fait rigoler. Mais nous, on sait très bien qu'on peut se débrouiller. On a 23-24 ans, on peut voyager très roots, etc. Et du coup, on part pendant un an partout dans le monde, en Chine, en Inde, au Vietnam, en Afrique du Sud, bosser sur des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On se retrouve dans les mines d'aluminium en Afrique du Sud. On se retrouve dans les centrales nucléaires en Chine pour EDF. On se retrouve dans les usines chinoises de confection textile.
Tu peux citer les noms.
De PPR qui est maintenant Kering. Et on a 24 ans et on se prend la claque de la mondialisation dans la figure. C'est-à-dire qu'on voit que tout est interconnecté, que les denrées qui sont produites à l'autre bout du monde sont achetées par nous, que ce soit des denrées alimentaires ou vestimentaires, ou des articles de mode. Et on se dit que les grandes entreprises parlent beaucoup, mais font pas grand-chose sur le terrain. C'est beaucoup de charité, c'est beaucoup de choses qui sont hors business, qui n'ont rien à voir avec... qui sont pas intégrées à ce qu'elles font tous les jours. C'est plutôt du plus et qui n'a pas vraiment d'impact, qui n'est pas vraiment pérenne. Et du coup, on se dit, nous on a 25 ans, on aimerait créer une entreprise différente. On pense que les politiciens, les États ont plus la main, que les multinationales, et c'est encore pire aujourd'hui, Google, Facebook, etc., sont devenues vraiment des transnationales, c'est-à-dire qu'elles...
Elles dirigent le monde, même, en fait. On pourrait presque le dire.
C'est pas diriger le monde, c'est l'influence qu'elles ont sur le monde, qui est plus importante, limite. Et du coup, on se dit que si c'est les entreprises qui détruisent la planète aujourd'hui, c'est peut-être les entreprises qui devraient la réparer. Ou en tout cas faire beaucoup plus attention à ce qu'elles font. Et de là, on se dit quel projet pourrait être très symbolique pour montrer que c'est possible qu'une entreprise fasse différemment, produise différemment, soit plus équilibrée et socialement et économiquement et a un impact positif sur l'environnement. Et on se dit, quoi de mieux qu'une paire de baskets pourrait montrer une voie différente, un chemin différent.
Et fédérer aussi.
Fédérer, je ne sais pas, mais en tout cas, montrer que c'est possible. Fédérer, après, c'est toujours...
Parce que la basket, c'est quand même un accessoire de mode, on va dire,
ouais, en fait, international. À l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, c'était notre génération qui l'avait porté en premier dans les facs, puis au bureau. C'est sorti dans des terrains de sport, les baskets, dans les années 90. Mmh. Fin des années 90, je dirais. Avec la génération Internet, la première génération Internet. Et pour nous, c'est même pas un accessoire de mode, c'est un accessoire tout court. On porte des baskets dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est un produit qui touche les 7 à 77 ans, que vous soyez un enfant ou une personne dans la fleur de l'âge, c'est un produit qui vous touche. Donc, on se dit, les baskets, en gros, sont assez mal produites, cristallisent un peu les problèmes de cette mondialisation. Sont produits dans des pays à bas coût, voire où les gens peuvent être exploités.
Les enfants aussi.
Les enfants, ça je laisse aux journalistes d'investigation leur travail, mais c'est souvent des pays à salaire minimaux, voire en dessous du seuil de pauvreté mondiale qui est de 2 dollars par jour. Donc Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Chine, etc. 99% des baskets sont produits dans des pays Asie du Sud-Est. Et du coup, on décide de se dire, on va prendre l'inverse, on va remonter le chemin, on va prendre l'inverse de ça. Et on se dit, on va essayer de créer une basket qui, à partir de zéro, et à partir de zéro, c'est quoi? C'est à partir des matières premières, vont essayer de respecter à chaque étape un peu plus l'homme et un peu plus l'environnement. Alors, ça veut dire quoi? La première basket qu'on veut faire, c'est une basket en toile très simple. La toile, c'est quoi? C'est du coton. Le coton, c'est quoi? C'est 2% des terres cultivées dans le monde, 30% des pesticides utilisés. D'où le coton bio, c'est-à-dire un coton sans engrais ni pesticides. Et du coup, on se dit, on va trouver du coton bio. Où est-ce qu'on en trouve? Il y en a en Inde. Il y en a en Afrique et il y en a en Amérique du Sud. Et on se dit que le Brésil est un chemin particulier parce que c'est le pays qui rassemble et matières premières, donc coton bio, caoutchouc dont on a besoin pour la semelle, caoutchouc sauvage d'Amazonie, caoutchouc qui pousse sur les EVA qui sont dans la forêt amazonienne, des EVA natifs de la forêt, c'est pas des plantations, et usine, c'est-à-dire un pays où les droits des travailleurs sont respectés, où les travailleurs sont syndicalisés.
Surtout dans le sud du Brésil, c'est ce qu'on a vu quand on était à
Alors, à Porto normalement, Alegre. C'est le pays entier. Mmh. Mais dans le sud du Brésil, c'est des régions plus riches, qui ressemblent beaucoup à l'Europe en termes de développement, en termes de PIB par habitant, en termes de façon de vivre, de loi du travail, etc. Je crois que la semaine, c'est une semaine de 39 heures maintenant, ou 40 heures. Dans le sud du Brésil, donc proche quand même de ce qu'on connaît ici, comparé aux 70 heures, 80 heures chinoises, ça n'a rien à voir. Et du coup, on se dit qu'en plus, c'est un pays qu'on adore.
Oui, que vous connaissiez bien aussi.
Qu'on connaissait un peu, pas très bien, mais un peu, et qu'on adore. C'est un pays comme les États-Unis qui, à partir du moment où on parle la langue, où on parle le portugais, ben, on devient brésilien. Comme quand on parle bien anglais, on peut devenir américain facilement. Ou en tout cas s'intégrer en Amérique facilement. Là, c'est un pays qui accueille, c'est un pays migratoire, c'est un pays qui a accueilli de nombreuses et encore plein de vagues de migrants, que ce soit des Japonais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Africains. L'histoire du Brésil, elle commence en 1500 et ça c'est super divers comme peuple. Et du coup, on se dit, ben, pourquoi pas tenter le Brésil ? C'est un pays qui a quand même plusieurs alignements de planètes pour nous. Donc, on essaie d'aller monter cette nouvelle marque de basket, cette nouvelle façon de produire des baskets au Brésil. Et ça, c'est en 2004. On commence déjà en mars 2004 et on lance la première basket en mars 2005. Donc, en un an, on a monté les filières, c'est-à-dire qu'on a rebroussé chemin, on a remonté le chemin des matières premières, on a déconstruit les baskets, remonté le chemin des matières premières, trouvé une coopérative extraordinaire de producteurs de coton bio qu'on a vu ensemble. On a trouvé des seringueiros dans la forêt amazonienne qui nous vendent le caoutchouc à un prix différencié. Et c'est du caoutchouc sauvage, donc une matière première ultra écologique, puisque c'est une matière première issue de la forêt. Et qui permet de valoriser la forêt sans la détruire, qui permet de valoriser la forêt pour la laisser en pied. Projet complètement utopique à la base.
Vous n'étiez que deux en plus.
On n'est que deux et on ne connaît rien au basket et on ne connaît rien au coton bio et on ne connaît rien à la forêt. Mais on a cette curiosité, cette envie de passer du temps sur le terrain pour apprendre. Et je pense que c'est ça qui est déterminant dans Veja, c'est prendre le temps. Ne pas se dire une paire de baskets c'est un produit fabriqué à l'autre bout du monde et moi j'envoie des dessins et peu importe comment c'est fabriqué. Veja c'est le contraire, c'est on apprend en étant sur le terrain, on apprend en vivant dans une usine de baskets pendant 2 ans quasiment, on apprend en étant dans les champs de coton bio avec les producteurs, en partageant leur souper, en partageant leurs problèmes, leur bonheur,
etc. Ça j'ai pu le voir, tu es très respecté là-bas.
C'est pas une histoire d'être très respecté, c'est que.
Il y a une vraie.
Il y a un échange.
Il y a un échange, ça c'est vrai que je peux confirmer.
Il y a un échange, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait 13 ans, 14 ans qu'on se connaît. 13 ans, 14 ans qu'on bosse ensemble. Donc,
il y a une confiance qui s'est installée aussi.
Des super nouvelles, on en a eu. On a des succès, je dirais même, avec les producteurs, on en a eu. Des énormes échecs, des énormes problèmes de coton qui brûle, enfin, stock de coton qui brûle, on en a eu ensemble. Et on a vu chacun comment on a traversé les problèmes et comment on les a résolus toujours ensemble, toujours en écoutant l'autre, en prenant du temps, etc. Et surtout, ça a encore pris, je dirais, une dimension supplémentaire à partir du moment où Val Denira, que tu as rencontré, a rejoint le projet Veja, donc c'était il y a 10 ans.
Tu la surnommes la guerrière du coton bio.
Oui, parce que si nous on passe du temps sur le terrain, quand on passe un mois par an au début de Veja dans les champs de coton bio, ça nous paraît beaucoup. On se dit qu'on connaît bien Val, c'est sa vie, elle passe son temps avec les producteurs de coton, à résoudre les problèmes. C'est de l'agriculture familiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais, pas de pesticides, très peu de machines. C'est vraiment de l'agroécologie au sens noble du terme. Et Val, elle est là, c'est donc, je dirais, la salariée de Veja dans les champs et dans les champs de coton, qui donne son appui technique aux producteurs de coton bio, les aide à résoudre les problèmes et organise les collectes, parce qu'après on fait filer le coton, tisser le coton. Donc c'est la madame coton bio de Veja, mais elle passe son temps avec eux. Mmh. Et elle a eu un témoignage avec nous quand on était ensemble assez très émouvant, dans le sens où c'était la fin de son témoignage, et elle nous disait mon père, qui l'a fait vachement souffrir par ailleurs, mon père était agriculteur, et à chaque fois que je suis avec un producteur de coton bio, mais ils produisent d'autres choses, on l'a vu, ils produisent plein d'autres cultures, à chaque fois que je suis avec l'un d'entre eux, j'ai l'impression d'être avec mon père et d'aider mon père, qui n'était pas lettré.
Oui, qui ne voulait même pas qu'elle fasse d'études, en plus, c'est ce qu'elle nous a expliqué.
Bon, c'était une autre époque, et c'était dans les champs, il était analphabète, etc., etc. Mais c'était très beau de dire, c'est comme si j'aidais mon père, c'est comme si j'avais pu aider mon père à l'époque à rendre les choses meilleures. Et ça, c'était... Ça paraît peut-être un peu cucu, mais c'était émouvant pour nous.
Elle est très, très émouvante, cette femme, qu'on peut entendre dans l'interview après toi. Alors, souvent, on dit déjà, oui, mais pourquoi le Brésil et pas la France ?
Ben parce que, déjà, nous, avec Guilin, on est...
C'est une marque française, c'est ce qu'on...
Non, c'est pas une marque française. On se voit, même nous, on ne se voit pas comme français uniquement. Si on nous demandait, on se verrait beaucoup plus comme européen ou comme... on voit le monde finalement de façon assez unie, assez bien sûr on a grandi en France, bien sûr on a des racines ici, mais oui, le Brésil c'est notre pays d'adoption, oui on a adopté sa langue, on a adopté sa culture, sa musique, etc. Et oui, on adore ce pays, et Veja on le voit beaucoup plus comme une marque je dirais qui déborde des frontières et qui soit pas...
Oui, parce que vous êtes vendu aux États-Unis.
Oui, c'est vendu.
Dans le monde.
On a commencé à vendre partout dans le monde directement, alors à toute petite échelle, mais plus Veja a grandi, plus ça s'est développé. Aujourd'hui, la France, c'est 20% des paires de Veja sont vendues en France. Ça veut dire que c'est 80% à l'étranger. Donc on ne voit pas Veja comme une marque française. On voit Veja peut-être comme une marque franco-brésilienne, mais on n'aime même pas l'appeler comme ça. Mmh, mmh.
Peux-tu nous expliquer en quoi Veja contribue à vraiment améliorer la vie des agriculteurs bio ?
Alors, nous, on ne le prend pas comme ça, on n'améliore pas leur vie. Veja, on le voit vraiment... Nous, quand on les rencontre, on n'y connaît rien en coton bio. Et on ne va pas leur donner de leçons. Nous, Veja, on le voit comme, si tu veux, relier des projets extraordinaires les uns aux autres pour faire une filière... de sourcing qui finit par se cristalliser sur un produit. Donc il y a les producteurs de coton bio, il y a les producteurs de caoutchouc sauvage en Amazonie qui font les semelles, enfin qui produisent le matériau qu'on va utiliser pour faire les semelles, l'usine dans le sud que tu as visité, une association de réinsertion à Paris qui fait tout le stockage et tout le dispatch chez Veja, et chaque fois c'est des projets incroyables qui mériteraient 5 docus chacun,
et projets humains.
Et des projets super humains, avec des gens et des figures et des personnes extraordinaires à chaque fois. Nous, là-dedans, finalement, on ne fait pas grand-chose si ce n'est que de relier ces projets-là entre eux pour créer une basket. Et du coup, dire « Veja les aide », ce n'est pas vrai. C'est eux qui ont créé leur projet et nous qui sommes arrivés comme des clients un peu différents. Mais on se voit pas plus que comme des clients un peu différents. On ne se voit pas comme des sauveurs.
Pas des sauveurs de l'humanité.
Non,
ou
pas du tout. Pas du tout. On se voit comme des clients un peu différents qui traitent de façon différente avec eux, qui leur proposent un deal différent, c'est-à-dire plus équilibré, plus focus sur un temps long, c'est-à-dire des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans, où où les mecs savent, quand ils plantent la graine de coton, ils savent combien ils vendront le kilo de coton. Ça, dans l'agriculture mondiale, ça n'existe pas. Oui, quand on plante, on ne sait pas quel sera le prix du marché dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, quand la plante aura éclos, aura donné son fruit, son légume, sa denrée alimentaire. Et nous, ça nous plaît de bosser sur des termes différents avec eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse depuis 14 ans avec les mêmes producteurs et que ça, c'est une comparaison un peu poétique, mais ça a essaimé, c'est-à-dire qu'on a commencé avec 30, 35 producteurs de coton bio. Aujourd'hui, par saison, ils sont entre 500, 800, on va peut-être atteindre 1000 cette année. Ça commence à être connu dans la région, voire au-delà. Mm-hmm. Et nous, c'est ça qui nous plaît, c'est le temps long, c'est travailler avec des gens.
Et les fidéliser.
Ouais, mais même c'est un partenariat dans la durée qui nous fait vachement apprendre sur nous-mêmes, etc. Et du coup, non, on les aide pas. On travaille ensemble, c'est main dans la main, on est partenaires. Ouais, ils gagnent mieux leur vie avec nous, mais c'est parce qu'ils font des projets extraordinaires. Donc ils le méritent 50 fois de gagner mieux leur vie. C'est plus comme ça qu'on le voit, tu vois, un partenariat sur le long terme.
Pourquoi ce refus de faire de la publicité ?
Il y a plein de raisons. La première raison, elle est économique. C'est qu'aujourd'hui, une marque de basket, c'est une basket. Quand on prend une basket d'une grande marque, c'est entre 50%, 60%, 70% de coûts publicitaires quand on prend cette basket. Et 30% de réel, c'est-à-dire de coût de production. Nous, c'était la base de Veja, ça, c'était d'enlever ça, enlever le sponsoring, enlever les sportifs, enlever Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gisèle Bündchen, enlever tout ça, et réallouer les sommes qui sont investies, les sommes gigantesquissimes qui sont investies dans la publicité pour les réallouer dans la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on pouvait créer, concevoir, fabriquer une basket qui valait 5 fois plus cher parce qu'elle utilise des matériaux écologiques, parce qu'elle respecte les travailleurs tout au long de la chaîne, parce que on l'a fait différemment aussi. Elle coûte 5 fois plus cher à fabriquer, mais elle sort au même prix en magasin qu'une basket de grande marque. Ça, c'est la première raison. S'il y a une seule vraie raison, c'est ça.
C'est la meilleure des raisons.
C'est la meilleure des raisons, mais qui va aussi avec... je dirais une vision un peu plus large sociétale, qui est que notre société est devenue ultra communicante, mais voire il y a une surabondance de communication qui la fragilise aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est devenu communication, tout est devenu une folie, une espèce de spirale où je vois plein d'entrepreneurs qui n'ont même pas monté leur projet, ils sont déjà en train d'en faire la publicité partout. Et
qu'est-ce que tu entends par fragiliser ? Tu crois que ça risque de créer une overdose chez le consommateur ?
Non, c'est un détachement vis-à-vis du réel que ça crée. Et quand on voit des Nicolas Hulot, bon alors là c'est facile de tirer sur lui en ce moment, mais...
Je crois qu'il n'en a pas besoin.
Non, il n'en a pas besoin, du coup c'est un peu méchant. Mais quand on voit plein de gens qui se disent « on s'occupe d'écologie » alors qu'il n'y a que de la communication et pas beaucoup d'action... Eh bien, c'est pas très bon pour l'écologie, je crois. En fait, il faudrait mieux... nous, notre méthode, c'est de se taire, plutôt. Alors, pas avec toi. Mais, généralement, on se tait et on agit. Et une fois qu'on a agi, on en parle. Mais une fois que c'est fait et que ça existe et que c'est sur le marché...
Et c'est concret.
C'est concret. C'est une des règles, par exemple, ici. On ne parle jamais... d'une nouveauté, de quelque chose qu'on va sortir l'année prochaine, etc. On en parle uniquement quand elle est sortie. Et ça change la façon de voir les choses. Et c'est toujours tentant de parler de nouveautés, de parler de trucs qu'on va faire dans 5 ans, dans 3 ans, etc. C'est la façon de communiquer sur l'écologie des grandes marques. Nous, on fait le contraire. On en parle une fois que ça existe, une fois que c'est au pied des gens. Là, on dit voilà, c'est ce qu'on a fait. Et ça nous rend très serein, cette façon de faire. Ça empêche l'espèce de surenchère communicative perpétuelle. Et donc ça, il y a la raison économique, donc réallouer les ressources dans la chaîne de production. Il y a la raison, je dirais plus pas morale parce que c'est pas un vrai mot, mais plus vision et plus
de discrétion aussi.
Comportement personnel, discipline personnelle, qui nous plaît beaucoup.
Alors, tu as créé un autre lieu qui prône aussi la transparence et l'engagement écologique. C'est Centre Commercial. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bah, on crée Véja, on lance Véja en 2005. Tout le monde rigole beaucoup à l'époque.
Pourquoi les gens rigolent beaucoup ?
Parce que tout le monde dit c'est une utopie, vous êtes en face de Nike, vous êtes en face d'Adidas, c'est votre projet, il est rigolo, mais ça ne marchera jamais. Et c'est des gens souvent de ces marques-là qui nous le disent.
Évidemment.
Et bon, nous, on leur dit, ce qu'on leur répond, c'est on leur dit on a 25 ans, si on ne tente pas ça quand on a 25 ans, qu'il tentera, on a fait des bonnes études, on pourra rebondir ailleurs, on pourra faire autre chose. Si nous, on a eu la chance de faire des bonnes études, on a eu la chance d'avoir nos parents qui nous soutiennent pendant nos études financièrement, etc. Si nous, avec cette chance-là, on n'essaye pas ça, on va le demander à qui ? À des gens qui ont eu moins de chance dans la vie ? À des gens qui viennent de quartiers où c'est difficile, où leurs parents n'avaient pas forcément les moyens ? Si nous, on ne prend pas cette chance-là, qui va la prendre ? Et du coup, ça a été un peu... Véja, on s'est retrouvés très seul finalement, parce que le discours écologique, on l'entendait en 2005, il était beaucoup moins entendu qu'aujourd'hui.
Il y a un effet de mode aussi aujourd'hui.
Non, c'est plus que mode. Je crois que c'est plus que mode. Vu tout ce qui arrive, c'est plus que mode. Tout le monde se rend compte qu'on a déconné, quoi, en gros.
Il est temps.
Qu'il est temps et que tout le monde a un peu déconné, que ce soit la génération des 68 arts, que ce soit la nôtre. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, tout le monde a un peu déconné et il y a plus de raisons à avoir dans la façon de se comporter face à la planète et face aux autres aussi. Et du coup, on se retrouve très seul dans Véja, on est un peu dans notre tour d'ivoire, tout le monde nous dit, nous appelle les intellos de la basket, tout le monde nous appelle les guerriers écologiques de la basket, et c'est pas forcément sympa dans la bouche des gens. On s'en fout, on grandit, on mène notre projet, Véja grandit, à chaque fois qu'on livre les baskets, c'est rupture de stock en 2 semaines, 3 semaines, on regarde pas trop les autres, mais on se retrouve finalement dans une tour d'ivoire, un peu en dehors de l'industrie de la mode, un peu...
Puis quand on est différent, on dérange un petit peu,
ouais,
souvent.
Il y avait ça, on le sentait beaucoup. Et du coup, on se dit, pourquoi on ne créerait pas un endroit qui relierait un peu tous ces gens différents, qui relierait un peu tous ceux qui ont du mal, ou en tout cas, peut-être les difficultés qu'on a rencontrées, est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre plus simples pour ceux qui arrivent maintenant ? Et Centre Commercial, on le construit comme un tremplin pour plein de nouveaux projets. On se dit, s'il y a des nouveaux projets comme le nôtre qui naissent 5 ans après, 10 ans après, ça serait cool d'avoir alors c'est nul de parler en anglais, un shelter, un berceau, un endroit où on est protégé. Et c'est comme ça qu'on monte Centre Commercial. Alors Guilain me dit, t'es fou, machin, ça va être le bordel, c'est un métier qu'on connaît pas, etc. Je dis, mais si nous, quand on monte Véja, on avait eu un endroit comme ça, on aurait adoré. Faisons-le pour les autres aussi. Mmh.
Donc vous recevez des jeunes créateurs.
Ouais, on fait plein de lancements de marques, mais qui ont une vision un peu particulière.
Écologique et sociale, souvent.
Ouais,
écologique la transparence
et sociale. La transparence, on se rend compte que c'est le dénominateur commun de tout Véja. C'est-à-dire que nous, le commerce équitable, c'est un commerce basé sur des principes différents. Le bio, c'est une agriculture basée sur des principes différents. Mais finalement, c'est quoi ? C'est toujours remonter le chemin des matières premières et finalement rendre transparent ce qui était complètement opaque, c'est-à-dire rendre transparent l'arrière-cour de l'industrie, comment sont fabriqués les produits. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment c'est fabriqué. Mmh. C'est pas le discours marketing, c'est pas Michael Jordan qui va sauter plus haut, etc. C'est comment c'est fabriqué. C'est bien tout ça, mais la réalité, c'est quoi ? Et en fait, on va trouver les marques qui ont ce discours-là. Alors, ça peut être Made in France, ça peut être... et c'est plus qu'un discours, d'ailleurs, c'est parfois un sacerdoce, c'est parfois des luttes incroyables. Made in France, Made in England, Made in Portugal, bio, recyclé. On essaie de rassembler les marques les plus cool, enfin qu'on juge être les plus cool de cette génération-là. On mélange le tout avec des marques plus anciennes, type Paraboot, qui est une marque extraordinaire et qui fabrique tout en France, dans son usine de Grenoble. On les mélange avec qui d'autre, avec Patagonia, qui est née dans les années 70, qui est une marque très engagée écologiquement et un modèle à suivre pour nous. Donc il y a, je dirais, 20% de marques plus anciennes, je dirais des grands-pères, 30% de marques comme Veja, je dirais ceux qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont monté leur marque il y a 5 ans, 10 ans, etc., et qui commencent à bien fonctionner.
Qui ont commencé à faire leurs preuves.
Ouais, et 30-40% de très nouvelles marques, de lancement de marques, pour se servir de l'effet d'aspiration des marques plus anciennes et des marques contemporaines.
Je me souviens que lors de ce voyage, on a parlé d'un pantalon qui était vendu chez Centre Commercial. Et on a commencé à réfléchir au fait sur la valeur et sur le prix des choses. Et toi, tu as répondu d'une manière assez juste. Tu as dit un pantalon se garde et ne se jette pas au bout d'un mois. Donc toi, quand tu achètes des fringues, c'est une forme d'investissement ?
Ouais, c'est vrai que j'achète des fringues qui... Et c'est le style de Veja en général. C'est d'ailleurs, c'est créer des produits qui se mettront encore dans 10 ans. On est moins dans la mode, je dirais,
la fast fashion. Fugace.
Non, il y a fast fashion, mais tu vois, même les Balenciaga, même les Vuitton, etc., ils
créent des produits. Avec leur hit bag et leur hit shoes.
Ils créent des produits qui, dans un an...
dans deux mois, même, ne seront plus à la mode.
Mais nous, on est pas dans cette mode-là. On est dans le style plutôt que dans la mode. Et c'est vrai que moi, quand j'achète des fringues, en fait, c'est triste, mais je m'habille pareil qu'il y a 10 ans.
Et pourquoi c'est triste ?
Bah, parce que c'est triste.
Tu te rêves en costume cravate ?
Non, pas du tout, mais je m'habille de façon très simple. Moi, je trouve que le style, c'est plus être à l'aise dans ce qu'on porte, que ça soit ce que tu portes là, super coloré, avec des prints, etc., mais t'es très à l'aise dedans, ça te va bien. Mmh. Et c'est ça qui est important dans la mode, c'est d'être très à l'aise, d'être en phase avec soi-même, d'être aligné avec ce qu'on est. Et pour moi, la mode, c'est ça. Mmh. Mais c'est plus une question de style que de mode, d'ailleurs. La mode, les défilés, tout ça, bon, je suis pas très...
Je suis pas à la Fashion Week.
Non, ça m'intéresse pas. Alors, bien sûr, il y a des choses très belles, mais moi, attendre une heure qu'il y ait des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui défilent pendant 15 minutes, je suis trop impatient pour attendre et je les regarde. Je peux regarder des défilés sur YouTube rapide, mais c'est pas le monde dans lequel je suis à l'aise.
Et puis oui, tout l'aspect financier qu'il y a derrière aussi. Quand on voit ce qui se dépense pour un défilé, c'est peut-être un petit peu gênant.
Non, mais ça, c'est pas mon débat. Je connais trop peu ce monde-là pour le juger. Et je veux pas le juger. C'est comme tous les mondes, il y a plein de révolutions à faire. Mais ouais, je suis plus inspiré par deux mecs qui travaillent dans la rue, avec des cases de chantier, etc. Je suis souvent plus inspiré par eux que par les défilés des super grandes marques et tout leur marketing et leur parfum. Je suis plus inspiré par la vraie vie, peut-être par prendre le métro. Le métro, pour moi, c'est une inspiration de dingue. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens avec des styles différents. Voilà. Je crois que c'est plus comme ça qu'on est inspiré que par des défilés.
Est-ce que, quand tu étais gamin, les fringues étaient importantes dans ta famille ? Est-ce que tu as baigné là-dedans ou pas du tout ?
Non, pas trop. Non, pas du tout même.
C'était une consommation raisonnable ?
Non, je dirais pas ça non plus. C'était normal, sans trop d'importance.
Oui, c'était pas. Tu n'avais pas une maman obsédée par les fringues ou
Ma maman, si, elle aime bien les vêtements. Mais plus ça va, plus elle aime bien. À l'époque, elle travaillait beaucoup, donc elle n'avait pas trop le temps de faire du shopping.
Et quand tu étais ado, tu étais déjà dans l'engagement ? Ou ça t'est venu plutôt sur le tard ?
Dans l'engagement, non. Parce que quand on est ado, je crois que on est d'abord en train de se chercher soi-même, plutôt que de s'ouvrir vers les autres. Quand on est ado, on cherche, on expérimente, on est curieux, on se brûle, on fait des conneries.
Quel a été ton pire fashion faux pas, alors, adolescent ? Tu étais punk ? Rock ? Enfin, c'est pas un fashion faux pas, hein, d'être punk.
Non, j'étais plus mixé, j'étais plus hip-hop mélangé au grunge, donc j'étais n'importe quoi. mais j'étais pas vachement dans un truc.
Ouais.
Tu me voyais dans la rue. En fait, je portais beaucoup de baskets déjà.
Alors, quelle marque à l'époque ?
Je portais tout. Je portais Puma, les Puma Clyde. Je portais les Stan Smith noirs. Je portais quoi ? Nike, pas beaucoup. Si, j'aimais bien Nike ACG, c'est la ligne montagne de Nike. Je portais pas mal de baskets déjà, oui.
Alors, tu as quatre garçons. Est-ce que tu leur transmets ta philosophie, justement, de vie ? Enfin, cette philosophie de vie, cette philosophie sur la consommation, sur les vêtements, sur... où tu les laisses grandir
Ouais, je crois qu'on a vachement envie de leur transmettre... Mais à partir du moment où transmettre devient imposé, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est toujours plus facile de le vivre soi et que eux se questionnent plutôt que d'essayer d'imposer, enfin transmettre en imposant et en disant voilà, il faut manger ça, il faut s'habiller comme ça, etc. Ça, je pense que c'est le pire qui puisse exister en termes d'éducation. Je suis beaucoup plus pour les laisser expérimenter, les laisser voir plein de choses et décider, eux, ce qui sera bon pour eux. Alors, bien sûr, ça crée des situations coca, ça crée des situations qui n'y ait pas de coca à la maison, par exemple, qui n'y ait pas de, comme on dit, des softs, enfin des...
Des soft drinks.
Ouais, mais comment on dit, des sodas.
Des sodas.
Qu'il n'y ait pas de soda à la maison. Alors bien sûr, quand ils voient un coca chez leur grand-mère, etc., où ça devient...
c'est la révolution.
Ouais, mais du coup, tu peux te dire que ça crée l'effet contraire, un effet de désir encore plus fort. Donc il faut, je pense, être humble vis-à-vis de ses enfants. Il faut surtout leur montrer que soi-même, on est aligné avec ce qu'on pense et les laisser. On est que des guides, finalement, pour eux. On est que des guides, mais ils nous lâchent dès 5 ans, 6 ans. Ils nous lâchent de plus en plus la main pour aller à l'école. Donc, on peut leur montrer des directions. On peut leur dire ça existe. Mm-hmm. Mais leur imposer ou leur transmettre, je pense que c'est pas comme ça que je l'entends, en tout cas.
Et toi, tu fais hyper gaffe aussi à ce que tu bouffes, hein ?
Ouais. Ouais, parce que je sais ce qu'il y a derrière, donc parce que la curiosité m'amène à me demander ce que c'est un smartphone, à me demander comment c'est fabriqué un smartphone, comment est fabriqué une pizza, comment je vais t'offrir un bouquin d'ailleurs sur la tomate, un bouquin fascinant sur la tomate qu'un jeune journaliste a écrit qui s'appelle Jean-Baptiste Mallet et qui remonte le chemin de la tomate et du ketchup, et c'est
J'en ai entendu parler.
Tu te dis, c'est fou. À quel point un produit aussi couillon, aussi répandu, parce qu'on se dit, ouais, la sauce tomate, il n'y en a pas partout, mais en fait, il y en a partout. Dans les pizzas, dans les pâtes, dans les lasagnes, dans tout ce que tu veux, il y en a partout. C'est le produit le plus consommé au monde. Et personne ne se pose vraiment la question de comment il est fabriqué. Et lui, il remonte les filières à la manière de Véja. Et c'est dingue. Ça finit avec l'armée chinoise qui cultive les tomates avec 300 000, 500 000 personnes, travail forcé dans une région en Chine, bourrée de pesticides. Enfin, c'est dingue de se poser ces questions-là. Et c'est vrai que nous, on trouve ça beaucoup plus romantique. La réalité est toujours plus romantique que la fiction ou que le marketing ou que l'artifice... de campagnes de pub, etc. On trouve la réalité beaucoup plus belle et souvent beaucoup plus tranchée, enfin dans le beau ou dans le mauvais. Et tout ça pour te dire que oui, je fais attention à ce que j'achète. Et non, on peut pas être tout le temps. Par exemple, je fume des cigarettes et je sais que c'est super nul.
Et ça, c'est aussi pour ta santé, pour tes poumons.
Non, mais c'est pour tout. C'est pour tout. Pour les mégots, pour tout, c'est super nul. Et je vais m'arrêter bientôt, mais j'aurais fumé pendant 10 ans, 12 ans. Et c'est ridicule, mais il ne faut pas se dire on peut être tout, on peut tout faire, etc. Rien que de commencer par quelques gestes, quelques petites choses, c'est déjà super. Il faut être surtout aligné avec soi-même et pas se forcer.
Justement, qu'est-ce que tu fais des fringues que tu ne portes plus ? Ou ton épouse, comment vous faites à la maison quand vous ne portez plus ? Vous les donnez, vous les recyclez ?
Moi, je vois que mon armoire, alors qu'on a, on a deux magasins, on a une marque de basket, je vois que mon armoire diminue d'année en année parce que j'achète de moins en moins et que je supporte pas en fait les armoires pleines de trucs que tu portes pas. Avec les enfants, avec les garçons, surtout les grands, hein, les petits ils sont là mais ils sont plus en train de jouer, on fait des braderies. Mais c'est vrai que j'adore moi vider. Et en fait, une fois que c'est vide, je consomme beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Je pense que je l'ai dit plusieurs fois pendant notre conversation. Je pense que c'est d'être aligné avec soi-même, de se sentir à l'aise. Je dirais pas bien dans ses baskets parce que ça serait limite mal perçu.
Slogan publicitaire.
Ouais, voilà, ça serait limite slogan un peu pourri. Non, c'est être être bien, être. Je pense qu'on peut porter le plus moche des vêtements élégamment. Peut-être à notre niveau, l'élégance, c'est se demander comment les choses sont faites. C'est une certaine élégance, je crois, que d'aller plus loin que la surface, que d'aller plus loin que ce qu'on voit. Et Veja, d'ailleurs, ça veut dire regarde, mais on le perçoit comme regarde derrière les produits, regarde ce qui se passe derrière, regarde le monde, que toute notre folie de consommation crée. Et ça, c'est une élégance que j'aimerais de plus en plus voir apparaître. Un peu un truc japonais. Les Japonais, ils sont beaucoup comme ça. De se demander comment sont fabriqués. Ça vient de l'artisanat, mais c'est une culture un peu holistique qu'ils ont. Mais j'en suis sûr que notre société va vers ça. Parce que c'est logique. C'est du bon sens. C'est même pas logique, c'est du bon sens.
Il y a notre planète aussi derrière qui en a besoin.
Ouais, c'est des ressources finies, c'est on voit qu'on peut pas que la société d'abondance a un prix trop élevé et du coup qu'on vivrait tout aussi bien et qu'on serait même peut-être plus heureux avec un peu moins de chiffon. Je peux pas terminer comme ça. Plus de chiffon radiophonique, moins de chiffon réel et dans les armoires. Voilà.
Merci Sébastien.
C'est une blague, hein, Valérie.
Non, mais je ne l'ai pas mal pris. Merci à toi. Alors, nous sommes avec Val. Bonjour Val.
Bonjour.
Val qui ne parle pas français, mais qui travaille pour Veja. D'ailleurs, Sébastien te surnomme la guerrière du coton bio. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour Veja ?
Faço inúmeras coisas, né? Então, como sou a responsável geral pela coordenação do projeto Algodão no Brasil e no mundo, então tenho várias atividades, entre elas organização dos agricultores, a certificação, eventos que a Veja vem, então, entre outras atividades.
Elle fait beaucoup de choses. Elle est la responsable générale pour la coordination du projet de coton bio dans le Brésil, mais aussi dans le reste du monde. Et dans ce travail, elle s'occupe d'organiser les groupes d'agriculteurs. Elle s'occupe aussi des certifications, des événements que Veja réalise au Brésil, entre autres activités.
Alors, tout à l'heure, tu nous as fait une petite présentation sur ta vie, sur ton parcours de femme. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs de Chiffon, de mon podcast ? Tu nous as expliqué que tu viens d'une famille très pauvre, avec un papa analphabète, et maintenant tu es ingénieur agronome. Est-ce que tu peux nous raconter très brièvement ce parcours, ton enfance en fait, et pourquoi tu voulais tant faire des études ?
Sou filha de agricultor que não teve terra para plantar. Venho de uma cidade que está a 184 quilômetros de Fortaleza, que é a capital. Apesar de meu pai ser analfabeto, mas eu nunca tive essa demonstração de querer ser analfabeto, de ficar lá no campo. Sempre tive um sonho de estudar. Então, estudar não para sair do campo, estudar para poder ajudar o campo. Essa era sempre foi minha ideia de missão. Por isso que escolhi agronomia, que era para poder voltar para o campo e ajudar pessoas assim como meu pai.
Alors, elle est fille d'un agriculteur qui n'avait pas de terre à lui pour faire sa production. Et ça, dans une toute petite ville qui s'appelle Itapipoc, à 184 km de la capitale, Fortaleza.
Dans le nord-est ?
Oui, au nord-est du Brésil. Et malgré le fait que son père il soit analphabète, elle n'a jamais voulu être comme lui et rester dans les champs, dans les plantations. Elle voulait étudier pas pour quitter absolument le champ, mais surtout pour aider les gens qui sont là, comme son père, pour être à leur service.
C'était un rêve de petite fille ?
Non, parce que je ne connaissais pas quel était le cours que faria isso. Então, não sabia que ia ser engenheira agrônoma, mas eu sabia que queria fazer algo ligado à terra.
Não, porque ela não conhecia essa formação, ela não sabia...
Cette volonté d'aider son père, en fait, ou d'aider ces gens qui vivent dans la pauvreté, et de s'en sortir aussi.
Elle ne savait pas que c'était de l'agronomie, elle savait juste qu'elle voulait travailler la terre. Et c'est comme ça qu'elle est, au bout d'un moment, elle a découvert cette formation d'ingénieur agronome.
Donc elle a commencé ses études à 27 ans, c'est ça, hein, après des soucis de santé.
E você começou a estudar com 27 anos, é isso? Depois de alguns problemas de saúde.
Tu as expliqué aussi dans ta présentation que... Ton papa préférait que tu travailles, que tu ne travailles pas, pardon, et que tu aies des enfants. C'est un peu le rôle des femmes ici.
Não queria que estudasse, que ficasse igual todas as outras mulheres do interior, de casar, de cuidar dos filhos, né, de ficar lá.
Oui, en fait, il voulait pas que je fasse des études et que j'aie un parcours comme les autres femmes ici de l'intérieur de l'État, qui s'occupe de la maison, des enfants.
Alors, je coupe parce que pour les auditeurs, c'est Daniel, notre traducteur, qui est brésilien. Et Daniel m'expliquait tout à l'heure qu'en fait, encore au Brésil, il y a des catégories de population où les filles, dès 15-16 ans, ont des enfants et travaillent, en fait. Enfin, sont complètement soumises.
Oui, je dois traduire ça.
Non, c'est pour moi, c'est juste pour les auditeurs.
Oui, en fait, il y a des populations très humbles qui ont encore une façon de vie qui est
disons, à l'ancienne. C'est intéressant de le dire. Alors, je reviens, pardon, vers Val. Tu as deux enfants. Quel âge as-tu?
Eu tenho 43 anos. Meus dois filhos. A menina, Ranielle, que se chama Ranielle, tem 24 anos. que fez enfermagem, e Gabriel tem 20 anos, que é técnico do meio ambiente, agora atualmente estuda letras.
Alors j'ai 43 ans, ma fille Ranielle, elle a 24, elle a suivi des études pour devenir infirmière, et aussi Gabriel, le plus petit, il a 20 ans, il a fait... des études techniques pour devenir technicien de l'environnement et à présent il suit une formation en lettres.
Donc est-ce que tu as poussé tes enfants à faire des études?
Creio que indirectement eu incentivei porque quando eles iam à escola, os professores falavam: "Siga o exemplo da sua mãe."
Je pense qu'indirectement oui, parce que quand ils allaient à l'école, il y avait ces profs qui disaient suivez l'exemple de votre mère.
C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une maman.
C'est le meilleur et le plus bonito elogio que maman peut recevoir.
J'ai été très impressionnée par votre parcours. Et je vous ai demandé tout à l'heure lors de la conférence quel était votre rêve. Et en fait, vous m'avez dit que votre rêve, c'est de partir poursuivre vos études en Espagne.
Meu desejo de voltar à Espanha para estudar. Quando eu estive em Salamanca em 2016, então comecei a ver lá as universidades que tinham possibilidade de estudo na minha área, de especialização na minha área. Então vi que eles têm projetos muito legais para estudar. Então meu desejo aí realmente é Valência ou a Salamanca.
En fait, j'ai le désir de revenir en Espagne, où j'ai été à Salamanca en 2016. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de connaître les universités, voir les possibilités de spécialisation dans mon domaine d'actuation. Et voilà, je rêve de partir soit en Salamanca, soit à Valencia.
Est-ce que l'émancipation des femmes au Brésil passe aussi par les études ?
Si.
Oui.
Je peux traduire. Et une dernière question. Est-ce qu'elle s'inquiète pour l'avenir de son pays au niveau politique ? Parce qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de...
Sim, é com muita tristeza que eu olho quem tem mais, cada vez quer mais. Então, o roubo no grande está sempre em quem tem melhores salários, sempre querem mais. Então, essa má distribuição de renda me preocupa muito.
Oui, ça m'attriste beaucoup, parce que ceux qui ont le plus, ils veulent toujours plus et ils volent le plus. C'est toujours parmi ceux qui ont les meilleurs salaires et ça m'inquiète vraiment beaucoup.
Les inégalités se creusent, au fait. Ici, c'est ça, il y a des très pauvres et des très riches.
Sim, existe essa grande diferença e creio que se continuar desse jeito a política, alguma coisa no Brasil, vai ficar o abismo muito maior.
Oui, il existe une énorme différence entre les classes et si ça reste comme ça au niveau politique dans le Brésil, je pense que ça va pas bien se passer.
Je souhaite le meilleur pour le Brésil. Merci Val.
Merci beaucoup.
Et en plus, on a le même prénom.
Et além do mais, a gente tem o mesmo, quase o mesmo nome.
Valérie. Et Valérina, pour toi.
Valdenira.
Valdenira. Merci.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
Eu possuo apenas o que Deus me deu.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.